Vous avez une petite chronologie de la lecture en Grande-Bretagne, qui n'est pas de moi, mais qui est inspirée par le grand livre sur la lecture en Grande-Bretagne jusqu'à récemment, de Richard Hawtick, qui s'appelait « The Common Reader ». Alors, je n'ai pas traduit ça parce que c'est quasiment intraduisible, bien que ce soit une expression qu'on retrouve tout le temps, c'est-à-dire le lecteur, disons, moyen, le lecteur lambda. C'était un livre de référence pendant des années. Et je commencerai par quelques remarques liminaires concernant d'abord le problème Angleterre-Grande-Bretagne. C'est difficile de faire la part des choses. Il ne faut pas traiter un Irlandais de l'anglais, mais britannique sert beaucoup aujourd'hui. Mais autrefois, l'Angleterre représentait le Royaume-Uni. Le problème, c'est que, pour ce qui est du livre que j'ai écrit, qui est le fruit d'un cours que j'ai assuré pendant 20 ans, mon verre est contre tout, parce que mes collègues dans le domaine de l'anglais je ne considérais pas que c'était quelque chose d'essentiel à enseigner. Bon, on emploie Angleterre couramment, et puis c'est un peu frustrant, parce qu'en fait, il faudrait faire aussi une étude sur l'Écosse, qui est bien plus en avance au point de vue de la lecture que la Grande-Bretagne. Je n'ai pas assez exploré, mais de toute évidence, c'est intéressant. Et de même qu'il y a une histoire du livre en Angleterre, il y a une édition en Britain, en fait, en anglais, c'est donc la Grande-Bretagne, mais il y a aussi une histoire du livre en Écosse. Les Écossais sont quand même très attaché à la distinction. Donc j'utilise Angleterre ou Grande-Bretagne indifféremment, ne vous en formalisez pas. On parle 19e, mais pour moi 19e c'est essentiellement l'époque victorienne. Victoria règne de 1837 à 1901, très long. Évidemment, on ne peut pas considérer que c'est un ensemble, un tout. On a l'habitude de fractionner la période victorienne en trois parties. 1837 c'est la date officielle de l'accession au trône. Mais, en fait, on parle souvent de 1832, parce que 1832, il y a une grande réforme électorale pour donner leur représentation au Parlement aux nouveaux industriels, cette bourgeoisie industrielle et commerçante qui a émergé. Et donc, on parle souvent de, disons, 1830-1850. 1850, c'est pour moi doublement un point de repère. C'est un point de repère parce qu'il va y avoir la grande exposition mondiale. Et puis, ici particulièrement, parce qu'en 1850, est votée enfin une loi sur les bibliothèques publiques. Il n'y avait pas de bibliothèque publique avant, pour ainsi dire pas. Après, on divise de 1850 à 1875, de 1875 à 1921, qui correspondent effectivement à l'évolution des mœurs, de la société, etc. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc je vais parler surtout de la période victorienne, quand même dans son ensemble, mais en divisant simplement en deux parties, ce qui est avant 1850 et ce qui est après 1850 sur le plan des bibliothèques. Mais je vais parler d'abord de la lecture, de l'alphabétisation. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Disons que la lecture en Grande-Bretagne a connu un essor relativement rapide et important au 19e siècle. Elle est déjà bien développée au 18e, mais ça va s'accentuer au 19e siècle pour deux raisons essentielles. La première est religieuse. Le protestantisme. Les pays protestants, l'Allemagne c'est pareil, sont des pays du livre, c'est-à-dire de la Bible. Et l'historien Élie Halévy dit très clairement que le protestantisme est une religion, je le cite, une religion du livre, une religion réfléchie et sérieuse. Il exige de tout chrétien digne de ce nom qu'il sache lire afin de connaître la Bible. Il est, dans cette mesure, propice au développement, sinon de la haute culture, tout au moins de l'instruction populaire. Vous voyez qu'on est là, et on peut aller voir qu'effectivement, du point de vue de la lecture, là je vais rejoindre les problèmes d'éducation populaire. Deuxième raison, c'est les besoins du commerce. Donc lié à ce que je viens de dire, la révolution industrielle fait que nous avons maintenant de nombreux artisans et de nombreux commerçants qui, évidemment, ont besoin de lire, qui ont besoin de savoir compter, et qui ont besoin aussi d'ouvrages pouvant les aider à gérer leurs affaires et à leur fournir des informations pratiques. C'est la base, disons, de départ de ce qui va se passer. En plus de ça, se pose la question de l'alphabétisation des classes populaires, et on s'aperçoit que l'instruction est aussi importante pour les classes populaires, comme je vais le dire un peu plus en détail maintenant. Cela dit, comme en France, comme je suppose dans de nombreux pays, l'alphabétisation des classes populaires reste un sujet de débat. Faut-il enseigner la lecture ou ne faut-il pas l'enseigner? Et vous avez bien sûr les deux points de vue habituels. Alors l'alphabétisation, pour tout le monde, c'est un principe de progrès social. Personne ne niera le progrès social. Et là, je vais faire appel à un premier terme extrêmement important que vous avez sur la petite fiche, c'est « literacy ». Qui est le mot qui traduit alphabétisation. Il paraît qu'on utilise littératie maintenant quelquefois. Bon, et littératie, comme on dira literate, l'adjectif, ça veut dire quelqu'un qui sait lire. En fait, ça recouvre plus que la littérature seule, ça recouvre ce qu'on appelle, c'est la deuxième remarque, c'est les trois R qui correspondent à reading, writing and arithmetic. Alors c'est un peu astucieux parce que les R ne sont, sont pas la lettre initiale dans les trois cas, il n'y a que pour la lecture, reading qui commence par un R, writing, on ne prononce pas le W, donc c'est comme si ça commençait par un R, et arithmetic, c'est encore plus subtil parce qu'en anglais il y a des accents toniques et que la première syllabe accentuée c'est rith, donc c'est le R, donc on appelle ça les trois R, c'est-à-dire en gros, donc lecture, écriture et calcul. Donc on s'aperçoit que c'est très important, même pour les classes populaires, en particulier pour les ouvriers, qui ont besoin parfois de pouvoir lire les annonces de travail auxquelles ils pourront faire acte de candidature. Et de leur côté, les employeurs se rendent compte qu'un ouvrier instruit offre des garanties en matière d'intelligence, de sens de la discipline, de respectabilité et de respect d'autorité. Alors la respectabilité, c'est la notion pour moi de base de l'époque victorienne, c'est vraiment se comporter d'une façon très codée, et ce terme s'applique aussi bien aux classes moyennes, sinon aux classes supérieures, qu'aux classes inférieures. Être respectable, c'est se comporter décemment, se comporter honnêtement, respecter la religion, etc. Je ne vais pas développer là-dessus, mais c'est vraiment le mot-clé de la période. En ça, je vous ai donné l'avis des partisans de l'éducation. Maintenant, de l'autre côté, il y a évidemment les adversaires de l'instruction des classes populaires, qui vont parfois jusqu'à défendre l'illettrisme. Pourquoi défendre l'illettrisme? Parce que c'est le garant de la paix intérieure. La grande crainte de l'Angleterre pendant tout le XIXe siècle, ça va être les révolutions sur le continent, en Europe. Et selon Halévy, toujours lui, l'historien Halévy, que vous connaissez sûrement, les conservateurs et la petite noblesse craignaient que l'instruction soit dangereuse pour l'ordre public si le peuple apprenait à penser par lui-même, donc à paraître des foyers d'insubordination politique et religieuse. Je vais glisser là ici une petite parenthèse sur les femmes. Le problème de la femme, c'est encore plus crucial. Il y a d'autres raisons encore pour ne pas trop l'instruire, pour ne pas souhaiter lui apprendre à lire, etc. Il y a une citation qui m'a frappée. Alors ça s'appelle Book Club, l'amour des livres, et je vous donne la traduction en français. L'amour des livres est le bon ange qui veille sur le foyer du pauvre et le sanctifie, en le sauvant des tentations tapies en dehors de son cercle familial enchanté, en suscitant chez lui de nouvelles pensées et de nobles aspirations, et en l'élevant en quelque sorte au-dessus des besognes fastidieuses et machinales de son travail quotidien. Voilà la femme. L'épouse bénit cet amour alors qu'elle est assise, souriante et occupée à coudre, tantôt écoutant la voix de son mari, tantôt faisant taire l'enfant sur ses genoux. Elle bénit cet amour, d'ailleurs l'amour des livres, qui lui permet de garder son mari à ses côtés et qui le rend joyeux, viril et généreux. Et bien qu'elle ne comprenne guère ce qu'il lit, elle ne l'en respecte que davantage. Belle vision de la femme, la journée de la femme. Alors, des adversaires et des partisans de l'alphabétisation, avec, restons du côté des partisans évidemment, et là encore deux catégories, un courant protestant et le courant évangélique, qui met l'accent sur la lecture comme moyen de salut. Le salut, entre autres, par la lecture de la Bible. Ce courant va contribuer à une diffusion massive de la Bible dans toutes les couches de la société, et aussi dans l'Empire en pleine constitution. Il y a eu des millions de Bibles de tout genre publiées et diffusées à travers le monde à cette époque-là, au XIXe siècle. Et bien évidemment, fallait-il savoir lire. Dans ce contexte religieux, je voudrais aussi entrer un petit peu dans les détails et signaler une personnalité qui a joué un rôle très important, non pas pour l'alphabétisation à proprement parler, mais pour aider à la lecture, et ensuite une espèce d'institution sur laquelle je parlerai dans un deuxième temps. Alors, Hannah More, qui est une évangéliste, c'est un petit peu antérieur à la période victorienne, elle est 1745-1833, donc même elle n'a pas connu la reine Victoria, mais on la cite toujours pour une initiative qu'elle a prise dans le cadre du développement de la lecture et de l'instruction. Pour elle, le problème n'était pas essentiellement qu'on apprenne la lecture pauvres, entre guillemets, mais qu'une fois qu'on leur avait appris à lire, ils aient à leur disposition des livres moraux, des livres appropriés, c'est-à-dire moralement corrects. Et c'est pour ça qu'elle est connue, parce qu'elle a entrepris de publier ce que vous avez là, les Cheap Repository Tracts. Les tracts, c'était des petits fascicules de lecture, enfin de texte à lire, pour ces gens qui étaient nouvellement alphabétisés, qui étaient faits sur le modèle des chapbooks, ou ce qu'on appelle aussi les broad science, c'est-à-dire des ouvrages bon marché et de qualité médiocre, destinés aux couches populaires et vendus par colportage. Les chapbooks, on a dit que le mot venait de cheap, que vous connaissez tous, parce que maintenant cheap est devenu un mot français. Donc c'était des petits fascicules. Et les broad science, c'était un petit peu différent, parce que c'était en fait une grande feuille écrite des deux côtés. Pas toujours d'ailleurs, mais c'était surtout le chapbook qui lui ont servi de modèle. Et donc, elle a eu l'idée très astucieuse, au lieu que soient diffusés ces chapbooks qui contenaient des histoires sensationnelles, des récits de crimes, de meurtres d'enfants, tout ce qui était la littérature sensationnelle de l'époque, elle a choisi donc de donner à ces tracts la même apparence, mais le contenu en était fort différent. Ça a été un succès indéniable, ça a été un succès considérable, et certainement, c'était un moyen de donner aux gens l'habitude de lire, et là, ils pouvaient s'instruire. Mais encore, fallait-il savoir lire? Alors, je reviens au problème de l'alphabétisation pour évoquer quelque chose qui est absolument fascinant. Moi, je n'avais pas assez travaillé dessus pendant mes cours, et là, j'ai découvert ça avec fascination, c'est les écoles du dimanche, les Sunday Schools. Alors, l'école du dimanche, c'est un phénomène qui apparaît dans le deuxième tiers du XVIIIe siècle, avec un objectif que j'ai déjà évoqué, celui d'enseigner la lecture de la Bible aux enfants de la classe ouvrière. Ceci afin qu'ils aient une instruction religieuse, qu'ils connaissent la religion, qu'ils connaissent le texte sacré, et en même temps les principes moraux qui allaient avec. Ces Sunday Schools sont la marque évidente du renouveau évangéliste de la fin du XVIIIe siècle. Mais ils vont durer extrêmement longtemps, on dit même jusqu'en 1961, vous voyez. C'est un peu comme le catéchisme, si vous voulez, dans le milieu catholique. Hein. Mais c'est, disons, au XIXe siècle, et en particulier jusqu'en 1880, qu'elles vont se développer considérablement. Alors, pourquoi le succès? Une raison très simple. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur, on ne travaille pas. Donc les enfants n'ont pas allé à l'école, si jamais ils allaient à l'école, mais les écoles, vous allez voir ce que c'était à cette époque-là. Et ils n'étaient pas non plus à travailler pour gagner de l'argent, soit dans la ferme de leur père, de leurs parents, soit dans l'industrie naissante, dans l'industrie en plein essor. Sur les 7 jours de la semaine, 6 se passaient au travail dans le milieu ouvrier, et il restait le dimanche. En plus, le dimanche, c'était le jour sacré, comme je l'ai déjà dit, et donc, il n'y avait que certaines activités autorisées, et parmi les activités autorisées, il y avait la lecture de la Bible. On comprend pourquoi les écoles du dimanche ont été très fréquentées par rapport en plus à toutes ces écoles médiocres et même minables qui existaient à l'époque, qu'on appelait parfois les ragged schools. Ragged, ça veut dire en guenille. Donc c'était des écoles vraiment sans aucune formation de la part de la personne qui faisait l'école, qui était souvent une femme qui faisait ça comme ça, dans sa cave, dans sa cuisine, dans un lieu quelconque. Donc là, on avait l'avantage que ces écoles étaient de meilleure qualité, qu'elles fonctionnaient un jour où les enfants étaient libres, qu'elles étaient gratuites, et comme elles se sont beaucoup développées, elles étaient implantées à travers tout le pays, et elles étaient très certainement plus efficaces, plus adéquates du point de vue de l'instruction elle-même. Enfants d'ouvriers spécialisés ou de manœuvres, mais l'âge pouvait aller de 5 à 30 ans, parce qu'il était bien évidemment accepté et acceptable que des adultes qui souhaitaient apprendre à lire soient intégrés. Il y avait même certaines écoles qui ont été spécifiquement destinées aux adultes. Succès tel que les chiffres sont impressionnants, on parle de 2 millions d'enfants de la classe ouvrière qui suivaient ces écoles en 1850, tandis que 250 000 hommes et femmes dispensaient l'enseignement. Alors les personnes qui dispensaient l'enseignement, c'était bien sûr des bénévoles, hein, comme on a les dames catéchistes. Quelquefois aussi, on a fait appel petit à petit à des élèves plus âgés qui étaient formés et qui revenaient, qui avaient tuteurs un peu, qui revenaient former les plus jeunes. Ça a été un fonctionnement qui était sérieux, enfin, qui était pensé, qui n'était pas laissé à la bonne volonté de n'importe qui. C'était relativement bien organisé et ces écoles n'interféraient pas avec le travail hebdomadaire et ne crèvaient pas le budget des familles parce que même les petites écoles pouvaient être payantes. C'est pour ça qu'on a pu dire, c'était un des ouvrages que j'avais consulté, l'école du dimanche permettait de combiner la discipline du travail les jours de semaine avec celle imposée par la religion le jour du Seigneur, et sans perturber l'ordre économique. Ça, c'est le côté religieux. Maintenant, de l'autre côté, un courant que j'appellerais pas laïque forcément, parce que c'est pas le terme qui convient à l'époque, mais un courant utilitariste, lié au mouvement de l'utilitarisme, qui œuvre donc pour la diffusion des connaissances utiles. Et il y a là deux mouvements d'importance capitale, dont l'objectif est l'éducation populaire. Donc là, c'est plus l'éducation que l'alphabétisation à proprement parler. Le premier, c'est les Mechanic Institutes, qu'on traduit moi par institut destiné aux travailleurs manuels. Mécanique, c'est quelqu'un qui travaille de ses mains. Le deuxième mouvement, c'est la société pour la diffusion des connaissances utiles, et on retrouve des formulations qu'on a en France, de la même manière. Les Mechanic Institutes, donc encore une fois, c'était pas l'alphabétisation qui était leur objectif premier, mais l'acquisition de savoir et le progrès individuel, à travers des cours et des conférences. Ce qui est le plus intéressant, c'est la création par ces instituts de bibliothèques. Bon, les cours et les conférences, le soir, pour aller vite, disons que le succès n'a pas été tout à fait ce qu'on pouvait en attendre, parce que venir le soir écouter des conférences d'ordre scientifique, plus ou moins, en sortant du travail, on s'est aperçu très vite que ce n'était pas la classe ouvrière qui était touchée par ces conférences, mais plutôt l'école blanche, parce qu'on pourrait appeler l'école blanche aujourd'hui. Cela dit, encore une fois, on en parlera à un moment des bibliothèques, comme ayant constitué des fonds qui vont continuer à servir après le vote de la loi sur les bibliothèques. Cela dit, il y avait tout de même, dans certains cas, certains instituts qui donnaient des cours d'alphabétisation, et là, non seulement aux ouvriers qualifiés, mais à des jeunes et à des femmes. Le deuxième mouvement, c'est la société pour la diffusion des connaissances utiles, qui est bien sûr une inspiration utilitariste. Les Mechanics Institutes ont été créés en 1824 et la société en question en 1826, c'est-à-dire 2 ans après, et dans la direction du même public, c'est-à-dire les ouvriers qualifiés et leurs familles. L'idée était de fournir à ce lectorat nouvellement alphabétisé des ouvrages utiles, accessibles, tant du point de vue de leur contenu, en général d'ordre technique et scientifique, que de leur donner justement quelque chose qui serait peu coûteux. Alors il y a eu plusieurs collections qui ont été lancées. Je vous rappelle à cette occasion que library en anglais veut dire bibliothèque, comme en français dans les deux sens du terme, c'est-à-dire le bâtiment, ce merveilleux bâtiment ici, mais aussi collection, comme la bibliothèque rose. Et donc on a lancé une collection qui s'appelait The Library of Useful Knowledge, la bibliothèque des connaissances utiles, comme l'association, dont le premier volume a été vendu en 1827 à plus de 30 000 exemplaires. Donc on a eu l'impression d'un succès tout à fait considérable. Là encore, il s'agissait de fascicules, et il y a quelque chose qui parcourt toute l'époque, c'est les fascicules toujours de 32 pages. Les raisons évidentes d'imprimerie, 32 pages, une base utile. Alors je fais une parenthèse, même quand la mode des romans feuilletons va se développer, ou plus exactement, pas le feuilleton, mais les publications en fascicule, ou en livraison, comme on dit en français, ça sera toujours 32 pages. Des fascicules de 32 pages, denses, qui paraissaient tous les 15 jours au prix de 6 pence, 6 pence chacun. Succès mitigé quand même, même si le premier volume a été distribué à plus de 30 000 exemplaires, mais le succès a été relatif, parce que c'est comme les conférences des instituts, c'est trop sérieux. Les gens réclament des choses distrayantes. Donc on a essayé de créer en parallèle une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque des connaissances distrayantes, Entertaining Knowledge. Bon, c'était pas le roman feuilleton encore, ou parallèlement au roman feuilleton, donc ça n'a pas été d'un grand succès. Et troisième initiative, un petit périodique qui s'appelle le Penny Magazine, qui comme son nom l'indique, donc on va faire beaucoup de choses. Tout ce qu'on va essayer de faire pas cher, ça s'appellera Penny, qui émane de cette association, comme c'est marqué très clairement, c'est publié tous les samedis. Alors, si je prends celui-là, on s'aperçoit que, là encore, il y a du bon et du moins bon, et les articles commencent par un article sur les charmeurs de serpents, en 2 colonnes assez denses. Ensuite, un reportage sur un sabbat dans le désert. Ensuite, une belle illustration d'un temple qui est dans la forêt de Windsor. Et puis, on arrive à des choses encore plus sérieuses, puisqu'on a des règles de calcul arithmétique. Simplification des règles arithmétiques. Alors, vous verrez, il y a des additions, une soustraction, une multiplication, etc. Et un reportage sur l'industrie du hareng. Enfin, seule chose peut-être un peu croustillante, c'est l'histoire de Lady Jane Grey. Elle était malheureuse, je crois qu'elle a été pendue ou exécutée, je ne sais plus pour quelle raison, vous m'excuserez, mais je ne l'ai pas relue récemment. Ce genre d'idée était comme les tracts de Hannah More, c'était une idée intéressante. Mais encore une fois, il y avait probablement trop de concurrence avec des publications beaucoup plus drôles. Je voudrais dire aussi quelques mots quand même sur les autodidactes, parce que c'était un phénomène assez souligné à l'époque victorienne, mais remis en question un peu aujourd'hui. Il y avait une autre valeur, à part la respectabilité, qui parcourait l'époque victorienne, c'est « self-help », qui correspond à la formule « aide-toi, le ciel t'aidera », ça veut dire « aide-toi toi-même ». Il y a eu une apologie de cette qualité extrêmement importante avec un ouvrage d'un certain Samuel Smiles, qui s'appelait justement « self-help », qui relatait des vies exemplaires de gens qui, partis de rien, étaient devenus des gens importants. Et il est certain, il y a des livres là-dessus, des témoignages certains, mais pas en aussi grand nombre qu'on peut bien dire, sur le fait que certains travaillaient seuls. Il y a quelques romans qui relatent ce genre de choses. En général, ils ont quand même trouvé quelqu'un pour les aider, quelqu'un qui les a pris en charge, mais ils ont appris eux-mêmes à lire. Le soir, en rentrant de chez eux, il y a un célèbre cordonnier, comme ça, qui le soir rentre chez eux, c'est de se mettre à lire. C'est un phénomène non négligeable, et je voulais le mentionner. Alors, on a parlé des différents courants qui ont marqué la période. La dernière chose qu'il faut évoquer, bien évidemment, c'est le problème du prix du livre. Le prix du livre reste un problème. Le prix du livre est excessif. C'est quasiment inaccessible, à part aux classes aisées. Je peux vous donner quelques chiffres, ça demande un peu de gymnastique arithmétique, justement. Un volume in quarto valait entre 10 et 12 shillings, ce qui équivaut... un bon pantalon, disent certains historiens de la lecture, ou un mois de thé et de sucre pour une famille de 6 personnes. Le livre reste hors de prix, bien plus cher qu'en France. En plus de ça, le problème particulier du roman vient de ce que Walter Scott, le grand romancier écossais, a imposé, en quelque sorte, les romans en 3 volumes, qu'on appelle Three Deckers, qui coûte 31 shillings, 6 ou 1 guinée et demi, si vous avez compris ce qu'était une guinée. C'est vraiment inaccessible, toutes sortes d'actions, mais ça, c'était pas le sujet d'aujourd'hui, dans l'édition, peut-être, peut-être entreprise pour pallier ce coût. Donc, au début de l'époque victorienne, mais même encore assez longtemps, il n'est pas question pour les gens des classes populaires de s'acheter un ouvrage. Alors, je vous l'ai dit, ceci va se diviser en deux parties, puisque je vais parler d'avant 1850, et en quelque sorte, avant 1850, ce sont essentiellement des bibliothèques privées. Et après la loi de 1850, dont je vous raconterai l'historique, on va lentement, mais très 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 lentement, vers des bibliothèques publiques. Alors, avant 1850, la seule bibliothèque publique, c'est la bibliothèque qui s'appelle à l'époque British Museum Library, la bibliothèque du British Museum. Quand j'ai été jeune chercheuse, j'allais à la bibliothèque du British Museum, qui s'appelle maintenant la British Library, on en est museum. Retenez cette idée parce que j'aurai l'occasion de revenir. Elle avait été créée en 1753. Bien évidemment, il fallait vraiment montrer patte blanche, il fallait être une personnalité importante pour pénétrer là-dedans, être chercheur si on utilisait le mot à l'époque. Bien, c'était pas ouvert à tout le monde. D'autre part, vous allez me dire, il y a les universités, effectivement, les grandes universités, pour ne mentionner que Oxford et Cambridge, effectivement, vous avez les bibliothèques. Et là encore, c'est vraiment réservé à l'élite qui étudiait dans ces endroits prestigieux. Alors, pour les classes moyennes, qu'est-ce qu'il y avait ? Pour les classes moyennes, on voit apparaître différentes sortes de bibliothèques privées, ce qu'on appellerait des cabinets de lecture, plus ou moins. Alors, ceux qui fonctionnent sur le mode coopératif, c'est-à-dire avec ou sans droit d'entrée ou avec une cotisation annuelle, on a ce genre de bibliothèque, bien sûr, donc ce n'est pas vraiment des cabinets de lecture, ce sont des coopératives où un groupe de personnes va décider d'acheter des livres, de les mettre en commun, de les faire tourner, et éventuellement à la fin les racheter en fin de parcours. On les appelait les subscriptions libraries, on les appelait aussi les bibliothèques de propriétaires. Les bibliothèques privées, propriété, demande des classes aisées. Là, je fais une parenthèse parce que cette bibliothèque où je suis ici, où j'ai le plaisir d'être ce soir, me fait penser, d'une certaine manière, à une bibliothèque qui a été créée en 1841, qui est privée et qui est restée privée, et qui s'appelle la London Library. La bibliothèque de Londres a une histoire qui est assez intéressante. Elle fonctionne toujours aujourd'hui. Le seul problème, c'est que si on veut adhérer aujourd'hui à cette bibliothèque, ce qui est très bien, on peut emprunter. Je peux même, moi, française, aller emprunter, emporter mes livres et les rapporter lors de mon prochain voyage, ou les faire passer par le courrier, ou cotiser à peu près 120 livres sterling pour l'année, minimum. Alors, il y a des cotisations à vie. Alors, suivant votre âge, plus ou moins élevé. Alors, c'est un lieu absolument incroyable. C'est une bibliothèque qui a été réalisée en partie à la suite des réactions de Thomas Carlyle. Thomas Carlyle, c'est un grand philosophe, essayiste, historien, il a écrit une histoire de la Révolution française, qui a été extrêmement choqué par le fait qu'il n'y avait pas de bibliothèque publique en Angleterre. Et il a été très marqué par ça. Il a dit, si on laisse de côté toutes les autres institutions, le British Museum et les cabinets de lecture, une vraie bonne bibliothèque de livres digne de ce nom manque cruellement dans cette grande ville de Londres. Il n'existe aucun autre lieu dans le monde civilisé qui soit si mal approvisionné en ouvrages de lecture pour ceux qui ne sont pas riches. C'est véritablement pour nous une sorte de déshonneur et nous devrions nous associer pour y mettre un terme avec toute la promptitude qui convient. Donc Carlyle a joué un rôle important dans la création de cette bibliothèque et il avait dit aussi autre chose. Dès 1832, il avait apostrophé le gouvernement en disant « Pourquoi n'y a-t-il pas dans chaque ville une bibliothèque de sa majesté ? Il y a bien dans chacune d'elles une prison et un gibet de sa majesté. » Vous savez, tout est marqué « Her Majesty ». Je me souviens même le papier toilette autrefois à la British Museum, il avait imprimé « Her Majesty's Property ». Alors, la London Library, je fais quand même une parenthèse, parce que c'est un endroit que j'ai fini par aller visiter. J'ai eu la bonne idée de l'ouvrir. C'était impossible d'y aller avant, sinon sans prendre la cotisation. C'est près de Piccadilly. Le classement est absolument très particulier. Il faut vraiment la connaître pour s'y retrouver. Mais elle a l'avantage, elle est très spacieuse, ils ont énormément de choses. Et elle existe toujours. Ce qui est intéressant, c'est que historiquement, c'est la dernière bibliothèque privée du type de ce qu'il y avait ces bibliothèques de souscription du début de l'époque victorienne. Alors, beaucoup plus intéressant, toujours pour les classes moyennes, ce sont bien sûr ce qu'on a appelé les circulating libraries. Ce ne sont pas des bibliothèques itinérantes, pas du tout, ce sont des bibliothèques où les livres circulent. Donc, en fait, ce sont des cabinets de lecture. Ce sont des cabinets de lecture parce que c'est totalement commercial. Elles ont vu le jour assez tôt, dès la deuxième moitié du XVIIe siècle, souvent lancées par des libraires qui, ne s'en sortant pas assez avec la vente de leurs livres, ont décidé de les prêter. Et on verra que la plus importante d'entre elles au XIXe siècle, c'est exactement ce qui s'est passé. Puisque les libraires souffraient de la mévente de leurs livres, ils ont décidé de se tourner vers le prêt, qui leur permettait de gagner un peu plus d'argent. Dès 1801, on en recense 1 000 000 en Grande-Bretagne, la plupart d'entre elles à Londres ou dans les grandes villes de province, Manchester, Sheffield, etc. Les villes d'eau ou villes de villégiature, pour des raisons évidentes, c'est qu'en vacances, les gens souhaitent emprunter des livres. 20 ans plus tard, c'est-à-dire nous sommes en 1821, elles sont au nombre de 1 500 et comprennent 100 000 adhérents. La cotisation annuelle est élevée. Ça, c'est le problème. C'est un problème évident. Bon, on a vu que le London Library, c'est très élevé. Mais même là, c'est assez élevé. Autre point important pour ces bibliothèques, ces cabinets de lecture, c'est qu'elles sont extrêmement sélectives dans le pire sens du terme. C'est-à-dire qu'elles vont constituer leur fonds de livres qui sont des ouvrages en vogue et récents, et des ouvrages qui sont moralement acceptables. Elles vont se développer énormément au XIXe siècle, mais dès le XVIIIe d'ailleurs, en liaison avec le développement du roman. Le roman en Angleterre, on peut dire qu'il commence, entre guillemets, en 1719 avec la parution de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, qui marque vraiment le début de ce type d'ouvrage. Je vous cite la plus célèbre d'entre elles, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui fut fondée en 1842 par un certain Charles Edward Mudie, qui a donc créé cette bibliothèque, qui est devenue quelque chose d'extraordinairement intéressant dans l'histoire de la lecture. Elle avait pris le nom de Select Library, d'ailleurs Select, hein, vraiment sélectionner les livres étaient sélectionnés, il a écrit partout que ces livres étaient très soigneusement choisis, Il était bien sûr particulièrement intéressé par la publication de romans, à tel point qu'il est devenu, c'est un peu une parenthèse sur la censure dont je ne parlerai pas, à tel point qu'il est devenu une sorte de censeur dans l'édition, puisque certains éditeurs allaient même jusqu'à soumettre les manuscrits de leurs auteurs à son verdict, parce qu'on savait que si le livre n'était pas pris par Mudie, c'était une catastrophe. Pourquoi c'était une catastrophe? Parce que Mudie achetait les livres, non pas par 5, non pas par 10, comme le Camelot, mais par des centaines. Le livre d'histoire de l'Angleterre de Macaulay, il l'a acheté à 500 exemplaires. Et certains romans de George Eliot, qui est peut-être une romancière dont vous avez parlé, pareil, la même chose. Donc, c'était une institution très astucieuse, parce que la cotisation se faisait au volume. Vous vous rappelez que c'est la mode du truc d'accord. Le roman en 3 volumes. On prenait une cotisation pour avoir le droit de prendre un volume. Si on voulait prendre 2 volumes ou 3 volumes, c'est-à-dire tout le roman, il fallait payer plus cher. Il fallait revenir régulièrement prendre la suite. Donc il y a eu un pouvoir quasi dictatorial. Les éditeurs, donc encore une fois, veillaient scrupuleusement à ce que tout nouvel ouvrage publié par eux, malheureusement il n'y a pas d'archives. Les seules archives, ce sont ces catalogues. Ces catalogues sont très intéressants, ils ne sont pas du tout continus, mais j'ai travaillé surtout, moi, sur les catalogues d'ouvrages français, parce que je pouvais inscrire des gens qui voulaient lire en français dans le texte. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a beaucoup dit que Mudie, c'était l'homme du roman en 3 volumes, l'homme qui proposait sans cesse, qui était vraiment centré là-dessus. C'est faux. Il proposait au moins autant de fiction que de ce qu'on appelle en anglais non-fiction, un terme très pratique qui veut dire les essais, les histoires, les biographies, les livres d'art, les ouvrages sur la musique, etc. C'est vrai qu'il y a les deux. Et donc, j'ai fini par regarder aussi, du côté, dans les catalogues de livres en français, j'ai repéré Louis Figuier, parce que je ne connaissais pas Louis Figuier avant de l'avoir trouvé dans les catalogues de Mudie pour la destination du public français. Voilà, en gros, pour les bibliothèques des classes moyennes privées, c'est ça. J'en viens aux bibliothèques populaires. Alors, les bibliothèques populaires, il y en a de tous ordres. Il y a les parish libraries, les bibliothèques de paroisse. Donc, il peut y avoir des bibliothèques instituées par un pasteur dans sa paroisse. Les factory libraries, des bibliothèques dans les usines. Et c'était toujours privé et c'était à la bonne volonté des personnes en question. Donc, ce n'était pas forcément des livres très intéressants. C'était souvent des dons. Les bibliothèques des Mechanics Institute dont j'ai parlé avant n'avaient pas trouvé leur public puisque c'était trop. Le public n'était pas celui auquel il était destiné, c'était des études. Sur les bibliothèques des instituts en question, je signalerai qu'en 1850, date à laquelle j'arrive, il y avait donc 610 instituts qui possédaient 700 000 volumes avec une circulation annuelle d'1 820 000. Ce qui est intéressant, c'est que le fonds de ces bibliothèques, encore une fois, a servi parfois à faire démarrer les bibliothèques publiques quand elles vont être créées. Alors, nous y venons enfin. Il ne faut pas croire que personne n'a réclamé de bibliothèque publique tout au long de la période. On a vu le cas de Carlyle, mais lui, il a fini par pousser à la création d'une bibliothèque privée. Mais le fait qu'il fallait créer des bibliothèques publiques et surtout gratuites a pris un certain temps et c'est un vrai roman feuilleton que je vais maintenant vous raconter. Alors, premier élément, c'est en février 1831, un courrier adressé par un certain Pierre, qui était un homme de loi et qui connaissait bien le ministre de la Justice d'alors, Henry Brougham. Il faut savoir que Brougham, il a été très impliqué dans tous les mouvements d'action sociale. Il a été impliqué dans la Société pour la diffusion des connaissances utiles et il a été impliqué dans la création et le développement des instituts, les Mechanics Institute. Donc, Kerr écrivait à son ami le ministre de la Justice d'alors, en lui joignant une proposition de loi, je cite, pour permettre aux villes d'une certaine importance de prélever des fonds pour la lecture publique et la création de bibliothèques publiques de prêt. Il détaillait cette proposition en 5 points, en disant qu'il fallait faire voter par les conseils municipaux un texte permettant soit de lever un impôt, soit d'emprunter de l'argent pour créer cette bibliothèque. C'était le premier point. Le deuxième, c'était d'offrir l'accès à tous les habitants de la ville en question et le droit d'emprunter à tous les contribuables ou à toute personne bénéficiant de la garantie d'un contribuable. En troisième point, il demandait l'organisation d'un comité de la bibliothèque et d'un bibliothécaire et de trouver des locaux, évidemment. Quatrièmement, contrôle du choix des livres commandés. bien sûr, là, on va pas en parler beaucoup, mais c'était à prévoir. Non seulement à cause de la somme d'argent qu'on disposerait, mais aussi, bien sûr, pour leur valeur morale. Et à ce moment-là, c'était pas vraiment gratuit ce qu'ils proposaient, puisqu'ils proposaient de demander à chaque emprunteur un demi-penné par livre emprunté. Lettre très, très bien reçue. On a créé une commission. Cette commission a travaillé sous la férule de Boham, mais sans que aucun résultat n'en sorte. Et il a fallu, en 1834, une deuxième commission, un deuxième comité. Mais vous allez voir que la deuxième commission avait des objectifs tout à fait différents. Il s'agissait d'un comité qui était en fait une enquête sur l'alcoolisme. C'était en fait un comité qui s'occupait de lutte contre l'alcoolisme et qui avait pour mission donc d'enquêter sur l'étendue, les causes et les conséquences de ce vice de l'alcoolisme fréquent dans les classes laborieuses du Royaume-Uni. Ce qui est intéressant, c'est que dans les trois propositions que le comité a fait, c'est que la troisième suggérait, je parle bien sûr, le début c'était contrôle des boissons et des jardins pour que les gens aient s'aérer au lieu de s'enfermer dans les pubs, et la troisième proposition c'était la construction dans les villes d'institutions publiques sous forme de bibliothèques et de musées. C'est ceci qui va nous mener à la fameuse loi de 1850, parce que en 1845 est votée une loi sur les musées. Et cette loi sur les musées stipule un certain nombre de choses qui va aider à l'apparition et au développement des bibliothèques publiques. Il s'agissait d'autoriser les municipalités à créer des musées des arts et des sciences, avec des bâtiments adéquats, payés grâce aux impôts locaux, une taxe d'un demi-penné pouvant être prélevée sur chaque livre sterling pour assurer la gestion du musée. Et le droit d'entrée du musée ne pouvait pas dépasser un penné par visite. Ce qui est intéressant, c'est que cette loi sur les musées a permis à trois municipalités, avant le vote de la loi de 1850, de créer des bibliothèques publiques. Trois municipalités ont profité de l'ambiguïté de la loi, puisqu'elle disait qu'on pouvait présenter dans les musées ou les galeries, je cite, « des spécimens artistiques, scientifiques et autres articles de tout genre ». Donc ils ont décidé qu'ils pouvaient très bien y inclure des livres. Donc, en fait, Canterbury, qui ne vous est pas inconnu, en 1847, Warrington, dans le Lancashire, en 1848, et Salford en 1849, c'est intéressant de voir que c'est des villes ouvrières, d'une région ouvrière. Ces trois municipalités ont créé ou ont organisé une bibliothèque à côté d'une association scientifique. Dans le cas de Canterbury, c'était donc le musée et la bibliothèque de l'institution philosophique et littéraire de la ville. Et à Warrington, c'était en liaison avec l'association d'histoire nationale. Donc on a déjà, grâce à ça, une percée. La brèche est faite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Warrington, les heures d'ouverture, ça vous intéressera, elles étaient de 10h à 16h et de 18h à 21h30. Et voilà les trois premières bibliothèques publiques avant que la loi soit votée. Heureusement, il y a deux pionniers importants qui sont l'un des noms proches, malheureusement, William Hewitt et Edward Edwards. C'est eux qui ont considérablement agi pour faire ouvrir les bibliothèques. Et pour ce faire, il y a eu, bien sûr, une publication qui a fait un petit peu réagir le pays. Il faut rappeler qu'en 1850, l'Angleterre est à l'apogée de sa réussite commerciale industrielle. C'est vraiment le pays le plus important en Europe. Et qu'on lui signale que côté bibliothèque, justement, c'est pas le cas. Un petit livre a été publié, d'ailleurs par Edwards, un de ces deux messieurs, sur le manque de bibliothèques gratuites, ouvertes au public, en Grande-Bretagne. Ça a dû faire réfléchir, puisqu'il y a donc eu un nouveau comité, qui a défini un certain nombre de points sur lesquels j'ai passé, et qui a donc cherché à faciliter l'ouverture de bibliothèques publiques, avec bien sûr d'un côté un vote du conseil municipal pour avoir de l'argent, le problème de la recherche des locaux, le problème de l'ouverture tardive a été mentionné dans ces points-là, demander des dons autant que faire se pouvait, ou en tout cas une aide financière auprès du clergé, des propriétaires terriens, des chefs d'entreprise, faciliter le prêt à domicile. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ils ont demandé, par exemple, que des bibliothèques, le British Museum, qui pouvait avoir des livres en plusieurs exemplaires, mais qui en donne, qui se débarrasse de ces doublons, de ces triplons, je ne sais pas comment on dit, pour aider à la création de ces bibliothèques. La réaction à cette loi, qui a quand même été votée en 1850, a été mitigée. Il y a bien sûr eu des gens favorables. Il y a eu un soutien certain, mais aussi beaucoup de réticences parce qu'on avait peur que ces bibliothèques deviennent des lieux d'agitation. L'Angleterre venait de connaître en 1848 un épisode de l'agitation chartiste. En 1848, il se passait des choses en Europe que l'Angleterre regardait avec beaucoup d'inquiétude. Et donc, il y a eu des réticences. La poursuite de la création de ces bibliothèques se fait extrêmement lentement, à raison d'une ou deux par an pendant quelques années. Et il faudra attendre la fin du siècle, c'est-à-dire entre 1887 et 1900, pour qu'on ait un rythme de croisière avec 16 à 17 bibliothèques créées par an dans le pays. Et il faut dire aussi que le magnat de l'industrie américain d'origine écossaise, Andrew Carnegie, a financé des bibliothèques, a construit des bibliothèques en Angleterre. Manque d'enthousiasme, grosse réticence, les classes moyennes n'y vont pas, les bibliothécaires ne sont pas formés, les locaux sont parfois sordides et à peine acceptables. Donc tout ça a été extrêmement lent à s'organiser. Et bien entendu, parallèlement, les bibliothèques privées ont continué à perdurer. Il y avait beaucoup d'idéalisme dans cette demande de création de bibliothèques publiques et gratuites, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait tout de même quelques carrières pensées parmi les fameux pionniers dont j'ai parlé, dont j'ai donné les noms, parce que, bien évidemment, on comptait sur les bibliothèques pour jouer un rôle de maintien de l'ordre, d'éducation, de cohésion sociale, c'est-à-dire aller dans le sens de ce que souhaitait la société britannique de l'époque. C'est seulement vers la fin du siècle que la bibliothèque publique se charge d'une connotation différente. On y voit davantage le moyen d'assimiler des connaissances, non plus au bénéfice de la vie sociale, mais au profit de l'individu sur le plan intellectuel et culturel. Et cette conception des bibliothèques publiques en Grande-Bretagne comme institution chargée d'une fonction sociale et d'une mission morale tout autant que culturelle est certainement une caractéristique importante de l'histoire des bibliothèques en Grande-Bretagne. Je suis préparée à la question. Merci.